Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif Physionutrition, Jérôme Milovanov sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour Fabrice.
Le docteur Jérôme Milovanov, comme chaque jeudi. Je rigole parce que vous savez que cette émission, elle est enregistrée dans les conditions du direct, mais c'est enregistré néanmoins et juste avant, on a refait la prise. Voyez-vous, on a refait la prise parce que j'ai pas été très professionnel et donc je vais l'être maintenant. Vous voyez Jérôme, la transparence que j'ai avec les auditeurs, c'est important.
Tout à fait, c'est important, très.
Mais
très
oui, simple. Faut être honnête. Et donc, chaque semaine, 10h-11h sur Nutri Radio, si vous nous écoutez sur le live, c'est le docteur Jérôme Milovanov pour Objectif Physionutrition et je n'avais pas remercier le partenaire sans qui on ne pourrait pas vous proposer ces émissions incroyables. Notre partenaire chouchou, le laboratoire TerraScience qui est leader en physionutrition justement avec cette approche bien particulière, spécialisé dans le développement de compléments alimentaires et solutions santé basées sur des avancées scientifiques. Voilà, c'est dit, c'était important. Autre chose importante que je tiens à dire, c'est que merci d'écouter ces émissions de plus en plus nombreux et pensez à vous abonner quand vous le faites en podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas forcément si beau que cela malgré son appellation, n'est-ce pas Jérôme ?
Oui, tout à fait. Très, très bien. Le si beau qui n'est pas si beau, et pourtant ça ne veut pas dire du tout ça, cela veut dire prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Donc, important de concevoir que cette notion est ancienne. On en parle depuis 20-30 ans dans les pays anglo-saxons, nous depuis 4-5 ans, un petit peu plus peut-être, on parle de ce SIBO. Donc, ce n'est pas une découverte récente et on va voir l'intérêt et surtout de voir que c'est souvent présent et complètement négligé. Alors, avant de parler un petit peu de ce SIBO en profondeur, on va se rappeler que l'intestin grêle est sensible, qu'il ne peut pas y avoir trop de bactéries. On dit que au niveau des bactéries, il y a à peu près 10 000 bactéries par millilitre dans l'intestin grêle. Or que, au niveau du côlon, je rappelle 10 milliards. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle permet l'absorption de nos nutriments, de nos vitamines, des oligo-éléments, des minéraux. Et donc, c'est une zone assez, fragile, oui, très fine aussi. Et donc, s'il y a le moindre gaz développé par une fermentation, eh bien, c'est un drame. Parce qu'automatiquement, on va avoir des carences en fer, en magnésium, en vitamine B12 et dans d'autres éléments. Mais ça, c'est les trois plus importants. Donc, on peut comprendre certaines carences chez certaines personnes qui sont liées finalement à une dégradation de l'absorption. Ces bactéries produisent des gaz. Ces gaz, c'est une pression, donc c'est une douleur. Et en plus, douleur dit inflammation, donc perturbation du système immunitaire. On va avoir les immunoglobulines de type A qui sont locales et qui nous protègent, seront faiblement produites. Ensuite, on a de l'inflammation, on a une réduction des enzymes, de l'efficacité des enzymes digestifs. Et là, on pense à la lactase. Ah, le lactose sera moins bien absorbé. La DAO, la diaminoxydase, qui permet de gérer l'histamine. Donc, on dérape vers les problèmes d'intolérance à l'histamine. On a un trouble de la perméabilité intestinale. Et ensuite, on peut avoir des toxines qui passent à cet endroit-là. Et là, on rentre dans l'endotoxinémie, c'est-à-dire passage de choses qui ne devraient pas passer dans le corps. Qui s'occupe de ça? Le foie. Et la détox. Et là, on voit que j'ai mis le doigt sur beaucoup de pathologies, puisqu'on dit qu'il y a à peu près 60 pathologies concernées par le SIBO.
Ah oui, rien que
ça. Importance.
Rien que cela. On ne va pas tous se dénumérer, évidemment.
Non, bien sûr.
Est-ce qu'on peut savoir quels sont ces symptômes qui évoquent peut-être un SIBO, en sachant que, évidemment, mesdames, messieurs, après, surtout quand vous allez parler des indications ou des recommandations de ce qu'on peut faire avec une approche physionutritionnelle. Mais évidemment, mesdames, messieurs...
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Eh oui, ça, c'est les précautions habituelles et importantes. Donc, quels sont les symptômes évocateurs d'un SIBO?
Alors, il y a deux types. Il y a d'abord les digestifs. Alors, digestifs, finalement, quand on reprend ce que j'ai dit avant, on va avoir des ballonnements, flatulences et distensions abdominales. On peut avoir des douleurs abdominales. On va avoir aussi potentiellement un transit perturbé. Ça peut être une constipation, ça peut être une diarrhée. On peut en parler après. Et on est orienté pour un certain type de fermentation ou des alternances. Et le dernier point, il ne faut pas l'oublier, j'en avais parlé à une des dernières émissions, le reflux gastro-œsophagien, puisqu'on a une augmentation de la pression intra-intestinale qui entraîne des fuites vers le haut. Donc voilà pour les signes digestifs. Ensuite, on a aussi des signes extra-digestifs. Et franchement, c'est lié aux troubles de la perméabilité intestinale ainsi qu'à la malabsorption. Et donc, on va avoir de la fatigue, de la dépression, des maux de tête, parfois des pertes de poids ou au contraire des gains de poids. Hein, ça, c'est, on peut avoir les deux opposés. On va avoir des sensibilités alimentaires, des intolérances alimentaires. On en a parlé, troubles de la perméabilité, intolérances alimentaires. On peut avoir des intolérances au gluten. On peut avoir une intolérance au lactose. On peut avoir aussi une intolérance au gluten. Et on arrête le gluten et les gens ne sont pas améliorés, curieusement. Mais on en reparlera un petit peu plus tard de ça. On peut avoir des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des problèmes de... et là, on rentre dans les pathologies, des complications cardiovasculaires, endocriniennes, thyroïdes, neurologiques, néphrologiques, dermatologiques, que j'oubliais, important, parce que souvent, la dermato, il faut la relier à l'intestin.
Eh bien, dis donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on entend tous ces symptômes, on se dit, bon, ben, les SIBO, on l'a tous, quoi, quelque part. Ça concerne beaucoup de personnes ?
Beaucoup de personnes. On verra un peu tout à l'heure l'impact hein, de ce SIBO, hein, mais ça concerne et on l'oublie souvent et surtout dans un syndrome du côlon irritable, il faut penser qu'on a souvent un SIBO. Bon, maintenant, il faut essayer de comprendre le pourquoi de ce fonctionnement.
On va marquer une petite pause et on va revenir dans un instant sur les causes. Donc, et vous allez tout nous dire. C'est juste après ceci sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif Physionutrition, Jérôme Milovanov sur Nutri Radio.
Le docteur Jérôme Milovanov sur Nutri Radio pour nous parler du SIBO. Le SIBO, bon ben vous l'avez compris si vous étiez dans la première partie d'émission. On n'est pas à l'abri du SIBO, hein, peut-être même qu'on l'a sans le savoir, il y a différents symptômes, donc je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel de santé, car ces informations ne se substituent pas ni à une visite chez le médecin, ni à un avis médical, ni à un traitement, ça vous le savez. Alors, on se disait qu'on allait revenir sur les causes de ce SIBO, Jérôme.
Oui, tout à fait. Les causes de SIBO sont donc à plusieurs niveaux. La première chose, c'est le haut, un dysfonctionnement des sécrétions digestives, notamment l'acide chlorhydrique. Si on a un problème d'hypochlorhydrie, automatiquement, on a une moindre digestion. Et donc, à ce moment-là, on va avoir potentiellement une fermentation, c'est-à-dire on demande finalement à l'intestin grêle de dégrader des choses qui auraient dû être dégradées avant. Lorsqu'on a la bile, lorsqu'on a des problèmes de sel biliaire, on va avoir, pareil, une dégradation potentiellement une pullulation bactérienne du grêle au niveau du grêle. Et dernier point, un déficit enzymatique. Ça, c'est la première situation, je dirais, fonctionnelle. Ensuite, on va avoir des dysfonctions anatomiques. Lorsqu'on va avoir des chirurgies, ben oui, hélas, bariatriques, les sleeves, le bypass, on peut avoir des anomalies qui entraînent derrière un SIBO. Le point important, on en parle de plus en plus, c'est ce complexe moteur migrant qui est une espèce de c'est pas un péristaltisme véritablement, mais c'est une lessiveuse qui nettoie après la digestion, c'est près de 2 heures après le début de l'alimentation. Ça permet de nettoyer et souvent ce complexe moteur migrant, hein, qui est un mouvement au niveau musculaire, qui est perturbé. Et il y a différentes raisons, on le verra plus loin, notamment infectieux. Et le dernier point, c'est le dysfonctionnement des mécanismes antibactériens. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant, parce que lorsqu'on a un système immunitaire perturbé, on peut avoir une dysrégulation. Et deuxième point, lorsqu'on va avoir un déséquilibre de la flore du côlon, ça peut remonter et automatiquement, on peut avoir une remontée de ces germes qui viennent d'en bas. Donc en haut, au milieu, en bas. C'est ces différentes causes, bien évidemment, de ce SIBO.
Alors, vous voulez nous parler de la théorie bactérienne des troubles digestifs.
Exactement. Au début, on a parlé que intestin-cerveau. Voilà. C'est-à-dire que je parlais... Oui, cerveau-intestin, parce que c'est une autoroute, hein. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, dans les deux sens. Mais au départ, on disait, oui, bon, vous avez des problèmes digestifs, allez, il faut aller voir le psychiatre, c'est des problèmes de stress. Donc, on s'est rendu compte dans un deuxième temps qu'il y avait une théorie bactérienne de tous ces colons irritables. Et c'est là où on fait l'amalgame SIBO et syndrome du côlon irritable, appelé SCI, et on se retrouve à peu près sur des composantes identiques, sauf que le côlon irritable, c'est un diagnostic type clinique pur, or que le SIBO, on le verra plus loin, c'est quand même un déséquilibre au niveau d'une pullulation bactérienne, ça on peut le démontrer. Donc le côlon irritable s'est établi, on a des critères qu'on appelle de ROM4, qui ont été d'ailleurs actualisés en 2016, où on sait qu'il y a douleur abdominale, ballonnement et trouble du transit, diarrhée ou constipation. Et on sait que c'est 6 mois, depuis au moins 6 mois, et au moins un jour par semaine sur les 3 derniers mois. On est sur un diagnostic clinique pur du SCI, mais quand on revoit la clinique finalement du SIBO, on se dit ben on est à peu près dans les mêmes conditions, bien évidemment. Sauf que les prévalences sont un petit peu différentes dans le sens que côlon irritable, aujourd'hui, on est à 11,3% de la population concernée par ce côlon irritable et 60%, à 70% des côlons irritables sont avec un SIBO. Mais tous les SIBO ne sont pas des côlons irritables. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un SIBO sans signe de côlon irritable. Et c'est embêtant parce qu'on peut avoir finalement pas de signe digestif, mais de signe extra-digestif. Et il faut y penser dans certaines pathologies. Finalement, j'en ai parlé un petit peu avant, hein, où on voit la dégradation, le diabète, la sclérodermie, l'hypothyroïdie. Est-ce qu'il n'y a pas de SIBO, potentiellement, une espèce de inconfort, mais qui n'est pas sur sur les signes bien établis du côlon irritable, comme on l'a vu, qui a été déterminé par la conférence de Rome. Et donc, on se retrouve sur les SIBO ne sont pas tous des côlons irritables, et même de l'autre côté, les côlons irritables ne sont pas tous des SIBO. On peut avoir, par exemple, dans les colons irritables, l'Helicobacter pylori, que l'on trouve dans l'estomac, on n'a pas de SIBO, mais on a une pathologie. On a des troubles mécaniques, on peut avoir des intolérances alimentaires, sans SIBO. On peut avoir une sensibilité au gluten, qui est inflammatoire, sans SIBO. La maladie cœliaque, qui est une entéropathie au gluten, qui peut être sans SIBO. La candidose, on ne peut pas avoir de SIBO, et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, c'est un peu complexe parce que on peut pas faire l'amalgame SIBO égale côlon irritable égale SIBO. Et c'est une entité qu'il faut savoir finalement repérer.
Alors, on va justement, par rapport au fait de savoir la repérer, on va reparler du diagnostic. Si on peut diagnostiquer ce SIBO facilement, quels sont les outils. Mais auparavant, on va marquer une petite pause, Jérôme. Vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Allez, on se retrouve juste après ceci.
Objectif Physionutrition. Jérôme Milovanov sur Nutri Radio.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or et tout ce qui passe par le tube digestif n'est pas du SIBO. Bon, je sais pas si.
Ou du côlon irritable.
Voilà, du côlon irritable. C'est ce que j'allais dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on parle du SIBO. Si vous venez de nous rejoindre sur Nutri Radio, merci. Restez avec nous et vous dites j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit avant. Vous allez retrouver le podcast à partir de 18h ce dimanche, mais prenez le train en marche, hein, il n'y a pas de problème, c'est le saloon, les portes elles sont ouvertes, c'est l'open space la radio, donc on parle du SIBO et l'importance déjà par rapport à tout ce que vous avez dit, et ça peut ressembler à beaucoup de choses, il y a des pathologies qui sont derrière, qui sont annexes, mais pour autant c'est pas forcément un SIBO, donc comment déjà on peut le diagnostiquer ce SIBO
Avant de le diagnostiquer, parce que ce sera assez simple, parce que c'est un peu complexe, mais quand le suspecter, je dirais.
Oui, exactement. Hein, vous avez raison.
Quand le suspecter, parce que c'est très important, on peut le repérer d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas de symptômes d'un côlon irritable. 60-70%, on le sait, des côlons irritables sont des SIBO. Donc, on peut dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un SIBO parce que j'ai vraiment des signes de côlon irritable. On peut le suspecter aussi sur des ballonnements. On peut le suspecter, et j'en ai parlé à l'émission sur les reflux gastro-œsophagiens, lorsqu'on a un reflux gastro-œsophagien, bien évidemment, on peut penser, est-ce que ce reflux n'est pas lié au SIBO? Parce que du coup, on prend en charge que le reflux et on oublie de prendre en charge le SIBO, ce qui est une erreur, parce que c'est la cause et pas que les conséquences. L'autre point, c'est lorsqu'on va avoir des carences micronutritionnelles. Le fer, j'en ai parlé tout à l'heure dans les minéraux et oligo-éléments et vitamines, le fer, carence en fer inexpliquée. Chez une femme qui a ses règles tous les mois importante et abondante, on se dit bah, c'est normal d'avoir une petite carence en fer. Mais si on tombe sur un homme qui a un fer un petit peu bas, tiens, c'est bizarre, surtout qu'il y a un petit ballonnement. Les vitamines B12 très basses, ça, il faut y penser, et ça, c'est souvent le cas. Les des troubles de déficit en minéraux, bien évidemment. Et souvent, un déficit, une baisse de la vitamine B12 et une augmentation de la B9, l'acide folique, parce que les bactéries sont capables de produire la B9. Donc ça, ça peut être très intéressant de repérer un dosage de B12 bas, un dosage de B9 haut. On dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas normal, les vitamines B devraient être au moins dans le même sens, c'est pas le cas. Donc ça, il faut y penser, c'est vraiment un élément que moi je recherche souvent en disant, tiens, ça arrive souvent d'ailleurs quand on le cherche. L'autre point important, c'est la malabsorption des graisses, donc des sels grasses, ou une carence en vitamine A, D, E, K. Alors bon, la vitamine A, la vitamine D, la K, on peut pas la doser. La D et la E, souvent on se retrouve avec une carence. On dit tiens, c'est bizarre. Il y a le gras qui est mal absorbé. Est-ce que c'est pas un SIBO ? On peut avoir des carences en protéines, mais ça c'est plus rare de trouver des albumines un petit peu basses liées à un SIBO. Mais ça, on voit que c'est des situations de carence. On pense aussi lorsqu'on a des symptômes qui persistent après une gastro-entérite aiguë. Parce que ça, c'est la partie, hein, j'ai expliqué le haut, le milieu, le bas, mais c'est la partie du milieu. On va avoir un décalage. Et à ce moment-là, ces gastro-entérites décapent le complexe moteur migrant qui est fondamental. Et on a une anomalie de ce type-là qui persiste et qui peut durer des années d'ailleurs. Hein. C'est pas les 15 jours ou 3 semaines après une gastro-entérite. Donc, bizarre, après une gastro, on n'arrive pas à se remettre. On peut y penser lorsqu'on a développer des symptômes après la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons pour des problèmes d'estomac ou de gastrite ou de reflux. Le médecin va mettre ou le gastroentérologue va mettre des IPP et c'est curieux, depuis, même après un petit arrêt, d'abord en général ça s'arrête rarement parce que c'est hélas pérennisé, on se retrouve à être gêné avec des ballonnements ou la prise d'opiacés ou la prise d'antibiotiques aussi. On peut y penser lorsqu'il y a une chirurgie abdominale ou lorsqu'on prend un antibiotique et curieusement, ça va améliorer de façon nette, mais hélas temporaire, les ballonnements. Lorsqu'une personne se retrouve améliorée par l'antibiothérapie, il faut suspecter un SIBO, c'est-à-dire une pullulation bactérienne et pas du côlon, du grêle. Hein, bien sûr, c'est le SIBO. La prise de prébiotiques ou de probiotiques peuvent aggraver ces symptômes. Non, on reparlera parce que il y a quand même des experts qui ont traité le SIBO curieusement avec des pré et des probiotiques avec amélioration. Donc, mais c'est vrai que si quelqu'un dit ah j'ai pris des probiotiques de suite je suis mal, ah ça c'est peut-être un SIBO. Quand les fibres aussi vont augmenter la constipation, ce qui est bizarre, hein, ou des ballonnements. Ah, c'est dû à la fermentation. Donc ça, c'est pas logique. On mange des fibres pour aller à la selle. Si on est plus constipé, c'est qu'on a dégradé quelque chose. Une diète sans gluten va aggraver les symptômes, ce qui est pas logique. On enlève le gluten, c'est inflammatoire. Puis on se retrouve à être pire qu'avant. C'est bizarre. Ou ça améliore certains symptômes, mais pas tous. Donc, il faut y penser. Quand c'est pas tout à fait normal, il faut y penser. Et dernier point, lorsque les glucides augmentent les symptômes. Ça, c'est clair que ces glucides, normalement, on va prendre les céréales, des légumineuses, c'est bon, c'est des fibres prébiotiques. Ah non, ça aggrave. Et il y a plein de gens, très, très curieusement, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais manger mieux, j'en ai marre de manger un McDo et tout ça, je veux mettre à manger normal. Ah ben ça, de suite, il a été détraqué au niveau intestin. Il faut penser au SIBO, bien évidemment.
Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux possibilités. Soit, pour diagnostiquer le SIBO, faire les tests respiratoires. Alors, c'est pas très pratique, mais ça se fait. Il y a certains centres qui permettent de faire ces tests respiratoires. Ça peut être fait directement au laboratoire, mais c'est souvent fait par correspondance. Ou alors, on peut déjà débuter une première prise en charge, bien évidemment alimentaire, pour voir si ça aide et permettre de le diagnostiquer.
Ok. Et après, en approche physio-nutritionnelle, comment on peut le gérer?
Donc, la première approche, c'est ce que je disais, c'est améliorer l'alimentation. Parce que très souvent, on a un stress qui peut dégrader le complexe moteur migrant. Donc, c'est l'intérêt de manger bio, de diminuer les produits transformés, de manger à heure fixe sans grignoter entre les repas, d'avoir un sommeil intéressant et reposant parce que le complexe migrant moteur fonctionne principalement durant la nuit. Donc, c'est important d'avoir un bon sommeil. Il faut avoir des exercices physiques réguliers. Il faut avoir une bonne hygiène. Le stress, essayer de le réduire au maximum. Et ensuite, d'avoir une diète en faisant attention, je dirais, aux fibres pour éviter la fermentation. Mais bien sûr, c'est très complexe parce que très souvent, quand on fait trop de fibres, ça fermente. Hein. Il faut se rappeler que le SIBO est lié à une fermentation et trois types. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut les diagnostiquer, j'en parlais juste avant, sur les tests respiratoires parce que ça permet de déterminer les trois types de gaz qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'hydrogène, le méthane ou l'hydrogène sulfureux. Et c'est vrai que c'est trois situations différentes qui vont nécessiter une prise en charge physio-nutritionnelle différente.
Et alors, l'approche physio-nutritionnelle, vous avez le temps de nous en parler parce qu'on se dirige vers la fin de cette émission.
Oui. Alors, bien sûr, conventionnellement, on le sait, les pays anglo-saxons proposent des traitements antibiotiques. On n'est pas dans la physio-nutrition, avec la rifaximine qui est souvent donnée. C'est très difficile en France de l'avoir parce que ça a changé. Avant, c'était qu'à l'hôpital. Maintenant, c'est limité. C'est que les gastro-entérologues. Et puis, je crois que c'est les internistes aussi qui peuvent le mettre. Donc, c'est très limité. On a des antibiotiques, mais sinon, l'important en physio-nutrition, c'est agir sur les trois mécanismes responsables du SIBO. En premièrement, si on a un dysfonctionnement haut, type hypochloridrie, on va avoir la bétaïne HECL hein, qui va permettre de réguler cette hypochloridrie. On peut avoir aussi des problèmes de dyspepsie, c'est-à-dire d'anomalie haute du fonctionnement de l'œsophage et de l'estomac. Et là, moi, je pense à trois plantes. Le cumin des prés, la menthe poivrée et le gingembre. Et dernier point, relancer l'activité enzymatique avec des lipases, des protéases, des amylases, des lactases et tous les enzymes que l'on a. On a quand même le complexe d'enzymes qui peuvent nous aider. Et dernier point, il faut éliminer les pathogènes. Et en fonction, bien sûr, de l'hydrogène sulfureux ou du méthane, on a des armes naturelles, en dehors des antibiotiques, qui peuvent être très intéressantes, comme la berbérine, qui va être intéressante à peu près à 1 gramme par jour pour agir sur l'hydrogène. On va avoir l'origan en huile essentielle, qui va être intéressante pour l'hydrogène sulfureux. Et on va avoir l'allicine à raison de 2 grammes par jour pour traiter le méthane. Même si on peut avoir un croisement et qu'en général, on peut même associer deux de ces bioactifs pour les différents fermentations, les trois différentes fermentations, mais c'est agir sur les pathogènes. Et le dernier point, l'alimentation. Je termine, j'étais au début sur l'alimentation et je finis pour conclure sur l'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation, le FODMAPS peut être intéressante pour une fermentation à hydrogène, mais je le rappelle, un FODMAPS se fait très peu de temps parce que de toute façon, ce FODMAPS, on réduit ces fameuses fibres qui fermentent. Peut-être c'est bien sur le moment, mais ça dégrade la flore intestinale et le microbiote en réduisant les bifidobactéries et les firmicutes. Donc, au long cours, de toute façon, on va aggraver la situation.
Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup encore, cher Jérôme, pour tous ces conseils précieux. J'ajoute, et ça c'est important, que Pollux doit intervenir immédiatement.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Ah oui, on le rappelle, hein, consultez votre professionnel de santé avant d'entamer toute complémentation pour avoir le bon diagnostic qui vous concerne. C'est individualisé, c'est vraiment le sens de ces émissions, c'est de vous donner des infos. Et après, vous allez voir votre professionnel de santé si vous vous sentez concerné, si vous savez qu'il y a un proche à vous, par exemple. Vous dites, tiens, hop, j'ai entendu ça, vous prenez rendez-vous chez le médecin et vous expliquez un petit peu ces symptômes parce que tous les médecins non plus ne sont pas formés à la physio-nutrition. Et donc, ça peut être bien aussi pour eux que vous leur apportiez votre expertise. quiz que vous avez reçu de ce Jérôme Milovanov des montagnes. Merci Jérôme.
Enfin, on essaye. Merci à Fabrice. Merci à tous les auditeurs.
On va se retrouver la semaine prochaine. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de ces émissions. C'est Sarah Méran qui arrive dans un instant pour Extra Time. Et puis l'émission, elle sera dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche.
Objectif Physio Nutrition. Jérôme Milovanov sur Nutri Radio.